VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
Midi à Abidjan, 13h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. Cameroun, l'évêque catholique camerounais Jean-Marie Benoît Rabala, dont le corps a été repêché le 2 juin dans un fleuve du centre du pays, a été brutalement assassiné. C'est ce qu'ont affirmé les évêques camerounais dans une déclaration. L'épiscopat camerounais exprime l'espoir que les coupables seront nommément identifiés et livrés à la justice. Dans leur déclaration, les prélats soulignent que leur conclusion s'appuie sur les premiers constats, sans donner plus de précision. À la CPI, la Cour pénale internationale de la Haye, déposition de l'ancien chef de guerre de la RDC, Busto Ntaganda, devant le tribunal ce mercredi sur son rôle alors qu'il était l'un des commandants des FPLC, les Forces Patriotiques pour la Libération du Congo, un mouvement rebelle. À l'ouverture de son procès, en septembre 2015, l'ex-seigneur de la guerre avait plaidé non coupable des 13 crimes de guerre et 5 crimes contre l'humanité qui lui sont reprochés, dont meurtre, pillage, attaque contre des civils, viol et esclavage sexuel commis par ses troupes en 2002-2003 en Ituri, dans le nord-est de la RDC. D'après la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, Busto Ntaganda était un des commandants les plus actifs lors des crimes ethniques qui ont été commis dans la région et ont entraîné la mort de 60 000 personnes. RCA, arrestation à Bangui de deux proches d'un officier congolais insurgé contre le régime au pouvoir à Kinshasa. La FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme, craint que leur extradition ne les expose à une exécution extrajudiciaire, Eddy Sango.
Les autorités des Bangui confirment avoir mis la main vendredi sur deux collaborateurs de John Tshibangu, colonel déserteur congolais qui menace d'y renverser les régimes de Kinshasa. Selon le ministre centrafricain de la Sécurité et de l'Intérieur, Jean-Serge Bokassa, les deux hommes sont impliqués dans des activités de déstabilisation de la Centrafrique et de la RDC. Sans vouloir en dire plus, M. Bokassa a précisé au téléphone à VOA Afrique que d'autres arrestations suivront parmi les acolytes des deux hommes. Un procès sera, selon lui, ouvert très prochainement. John Tshibangu, leader du mouvement politico-militaire Front du peuple congolais pour le changement et la démocratie, dit craindre que ces hommes ne soient sommairement exécutés si jamais ils étaient extradés à Kinshasa. Le colonel Tshibangu avait rejeté la victoire de Joseph Kabila à la présidentielle de 2011 et exigé la vérité des urnes depuis le Kasaï où il s'était constitué un bastion avant d'aller en exil à l'étranger.
Crise migratoire, des migrants ouest-africains parmi lesquels des femmes ont été abandonnés hier par leurs passeurs en plein désert dans le nord du Niger. Heureusement, ils ont été secourus par l'armée nigérienne. Le témoignage d'Ibrahim Monzo Diallo, journaliste à Aïr Info, à Agadez.
Ces gens, qui sont au nombre de 80, ont été abandonnés par leurs passeurs. Et avant d'être abandonnés, nous avons appris qu'ils ont été d'abord violentés, c'est-à-dire torturés par ces passeurs, sûrement sous la menace des armes pour pouvoir libérer le véhicule qui les contenait. Il y a de plus en plus de passeurs qui abandonnent les migrants. Et chose curieuse, ces passeurs ne sont pas du tout retrouvés. Ils prennent la poudre d'un scampette, ils maîtrisent le désert, ils vont là où ils veulent.
Ibrahim Monzo Diallo, journaliste à Aïr Info, à Agadez, au Niger. En Côte d'Ivoire, des voix s'élèvent de plus en plus pour demander la libération de tous les prisonniers politiques, essentiellement des personnes arrêtées à la suite de la crise post-électorale de 2010-2011. Une association de femmes est à la pointe de ce combat. Écoutez l'appel de Simone Dade, présidente du collectif des femmes des détenues de la crise post-électorale.
Je suis dans la souffrance. Mon mari est détenu de manière injuste dans une prison et on vient me parler de réconciliation. On vit dans l'angoisse, dans la tristesse totale, dans la désolation. Parce que tu ne sais même pas si ton époux vit, ça c'est un d'abord. Après, quand tu sais où ton époux est, quand tu vas trouver ton époux, dans la condition où tu vois ton époux, vraiment, c'est trop grave. Nous sommes obligés de mener des démarches pendant plusieurs semaines pour voir nos époux. Avec les enfants aussi qui demandent maman et papa, c'est compliqué, c'est vraiment triste.
Simone Dade, présidente du collectif des femmes des détenues de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Bénin, la gestion de plusieurs sociétés d'État pourrait tomber dans les mains des particuliers, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Ce serait, selon le gouvernement du président Patrice Talon, la solution pour restaurer et remettre sur les rails ces sociétés. Mais les syndicalistes voient d'un mauvais œil cette éventuelle mise en concession des sociétés visées de Cotonou. Les précisions de notre correspondante Ginette Fleur Adandé.
Encore une autre décision du gouvernement de Patrice Talon perçue par les Béninois, surtout les syndicalistes, comme une trahison totalement en désaccord avec les promesses électorales. En effet, depuis quelques jours, l'actualité au Bénin est marquée par l'annonce de la mise en concession de certaines sociétés d'État. Il était déjà reproché au gouvernement sa gestion aveugle et son insensibilité face aux plaintes des populations qui créent chaque jour misère et chômage. Basilia Oudoupé, secrétaire général du CINTRA-CNHU, s'insurge contre la mise en concession du plus grand hôpital du Bénin et appelle les travailleurs à se mobiliser pour sauver le Gaïtien.
On l'appelle mise en concession, privatisation, mise en gérance, on l'appelle à fermage ou toute autre chose, ça concourt à la privatisation du CNHU. Oui, le secteur de la santé a besoin de réformes, mais non au bradage, non à la mise dans la rue des pères et des mères de famille. Non, non et à jamais. Non.
Son collègue Théophile Dossou du même secteur voit de mauvais œil cette volonté manifeste du gouvernement à confier la gestion des sociétés d'État aux particuliers, qu'ils soient nationaux ou étrangers.
Comment cette jeunesse qui aujourd'hui est bardée de diplômes, qui n'a pas l'emploi, comment peut-on permettre encore que des retraités viennent travailler à leur place? Donc il y a des paradoxes dans tout ce qui a été proposé. Ils ont proposé non seulement que le CNHU soit mis en concession, mais ils ont proposé au chef de l'État que des médecins de la diaspora viennent travailler à notre place ici.
Saint-Michel Lamadi est un expert certifié en audit interne. Après avoir expliqué que la mise en concession, contrairement à ce qui est ventilé de part et d'autre, ne saura être perçue comme un bradage du patrimoine national, a tout de même émis quelques inquiétudes quant à la procédure qui permettra de mettre en concession ces entreprises.
Lorsqu'un repreneur privé reprend une entreprise, c'est d'abord les salaires qui souffrent. Parfois, il y a des licenciements. Donc, je pense que l'État doit faire très attention, déjà dans le contexte où nous sommes, où il n'y a pas d'emploi, où il y a la morosité économique, l'État doit faire très attention à ce que la ressource humaine soit maintenue en place et qu'elle contribue véritablement au bon fonctionnement de ces entreprises-là.
Les syndicalistes dans tous les secteurs se mobilisent et appellent le peuple à se lever pour exiger du gouvernement de la clarté dans la gestion publique.
On a constaté que ce gouvernement continue à faire ses réformes comme si le Bénin était une entreprise privée. C'est seulement que les travailleurs se mobilisent et que le peuple se mobilise pour faire échec à cette gouvernance désastreuse qui enlise le peuple dans la misère et qui aggrave sa situation par, disons, la résurgence d'un certain nombre de taxes et d'impôts qui asphyxient le pouvoir d'achat et amenuisent le panier de la ménagère.
Plusieurs actions sont prévues dans les prochains jours par les centrales syndicales pour dénoncer le silence du gouvernement sur les urgences de l'heure. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Actualité aux États-Unis maintenant, le ministre américain de la Justice, Jeff Sessions, a démenti mardi avoir eu une réunion non révélée avec Sergei Kislyak, l'ambassadeur russe à Washington. Il n'y a pas eu non plus de communication indue avec des officiels étrangers, selon le ministre. Plus de détails avec Jean-Roger Bion.
Jeff Sessions a qualifié de mensonge honteux et détestable toute idée selon laquelle il y aurait eu collusion entre lui et des responsables russes pendant la présidentielle de 2016. Lors d'échanges plutôt vifs avec des membres de la commission du renseignement qui enquête sur l'ingérence russe dans cette élection, l'ancien conseiller de la campagne de Donald Trump a dit avoir eu deux rencontres avec l'ambassadeur Kislyak en 2016. Mais il dément qu'il ait eu une troisième réunion avec lui dans un hôtel de Washington en avril dernier à l'occasion d'une réunion politique. Je l'ai peut-être croisé dans une réception, mais je ne me souviens pas, a-t-il dit. Le ministre de la Justice a cependant refusé de répondre aux questions sur ses conversations sur l'affaire russe avec le président Trump, suscitant des accusations d'obstructionnisme de la part des membres démocrates de la commission. Pour étayer les raisons de son refus, M. Sessions a cité une politique de longue date de son ministère, se réfugiant derrière la prérogative sur la confidentialité de ses discussions avec le président.
Et pour terminer, le président français Emmanuel Macron visite ce mercredi au Maroc pour une première rencontre avec le roi Mohamed VI. Le chef de l'État français, accompagné de son épouse Brigitte, doit atterrir à 17h à l'aéroport de Rabat, où il sera accueilli en personne par le roi. Au menu de leurs entretiens, la situation dans le golfe arabo-persique et également en Libye.
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.